Chapitre 8. Un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988. Cours 1. Les transformations de la société française de 1974 à 1981. En quoi les années 1970 ont-elles marqué une rupture tant politique que sociale et culturelle? A. Un changement politique. 1. L'élection présidentielle de 1974, l'espoir d'un changement. Après la mort du président Georges Pompidou, héritier politique du général de Gaulle, la société française aspire à un renouveau. Valéry Giscard d'Estaing axe sa campagne électorale sur le changement et se présente alors comme l'incarnation d'une droite libérale, moderne et jeune. Il a alors 48 ans. Élu face au candidat de gauche François Mitterrand le 19 mai 1974, avec 50,81% des voix, il instaure un nouveau style présidentiel. Il souhaite gouverner au centre. Il privilégie le contact direct avec la population grâce à des conférences de presse, des discours réguliers à la télévision. Il s'invite même parfois pour dîner dans les foyers français. 2. Vers une société plus ouverte et libérale. Pour Valéry Giscard d'Estaing, la France doit devenir un immense chantier de réformes. Il souhaite une société plus ouverte. Dès 1974, il abaisse la majorité électorale à 18 ans, contre 21 ans. En 1974, il crée un secrétariat d'État à la condition féminine, confié à la journaliste Françoise Giroud. En matière culturelle, le gouvernement décide la suppression du monopole de l'ORTF, Office de Radiodiffusion Télévision Française. À la place, plusieurs chaînes publiques de radio, Radio France, et de télévision, TF1, Antenne 2, France Région 3, indépendantes, sont créées de manière à être mises en concurrence. En matière sociale, le SMIC est augmenté et la sécurité sociale est étendue à tous les Français. B. Des mutations sociales et culturelles. 1. Les réformes scolaires. Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing constitue aussi un tournant pour l'école. La question de l'égalité des chances en matière d'éducation est une préoccupation des différents gouvernements depuis l'après-guerre. En 1959, la réforme Berthoin allonge l'âge obligatoire de la scolarité à 16 ans. Il existe malgré tout différents types de collèges, selon que les élèves se dirigent vers des études courtes, professionnelles ou longues. Seules les catégories les plus favorisées poursuivent vers le lycée. En 1975, la loi Habi crée le collège unique qui unifie tous les parcours et cherche ainsi à favoriser la démocratisation scolaire. L'augmentation du nombre d'élèves du secondaire s'avère spectaculaire depuis la fin des années 1950. À l'université, la massification est également aussi forte depuis les années 1960 du fait de l'arrivée des générations nées plus nombreuses dans les années 1940-1950. 2. L'émancipation des femmes. Dès les années 1960, le féminisme a permis la généralisation de la contraception, loi Neuwirth 1967. En 1970, le MLF, Mouvement de libération des femmes, est fondé à Paris. La lutte privilégiée est celle du droit à l'avortement afin que la maternité soit un choix. Cette revendication est largement relayée dans la presse par des artistes, des médecins, des avocats, des syndicalistes. En 1975, la ministre de la Santé Simone Veil fait voter, après des débats très vifs, la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Elle permet aussi à la Sécurité sociale de rembourser les moyens de contraception, mais pas encore l'IVG. La place des femmes dans le couple évolue ainsi au rythme de leur intégration au monde du travail. En 1970, 60% des femmes mariées ne sont pas statistiquement comptabilisées comme professionnellement actives. À la fin des années 1980, elles ne sont plus que 30%. Ces évolutions aboutissent à une reconnaissance progressive de l'égalité des droits. En 1970, la loi sur le partage de l'autorité parentale, jusque-là réservée aux pères, consacre l'égalité des parents dans l'éducation de leurs enfants. En 1975, une loi simplifie la procédure de divorce en instaurant le consentement mutuel. C. Le temps des doutes et des questions. 1. Crise économique et contestation. Faute d'indépendance énergétique, la France est vite confrontée à la crise économique, caractérisée par une forte inflation et une augmentation du chômage qui double entre 1975 et 1981 pour atteindre 7% de la population active. Incapable d'enrayer la montée du chômage, le gouvernement doit affronter une opposition politique de gauche très offensive. De nombreuses contestations émergent. Dans les régions industrielles touchées par la crise, les mobilisations ouvrières se développent, comme en Lorraine. C'est aussi le début d'une prise de conscience écologique. En Bretagne, la population se mobilise et empêche la construction d'une centrale nucléaire à Plogoff, 1978-1981. Les radios libres, comme Radio Verte, une radio écologiste, ou Radio Lorraine Cœur d'Acier, se multiplient. 2. La place des immigrés. Dès juillet 1974, dans un contexte de crise économique mondiale, le gouvernement français suspend l'immigration de travail. Les entrées se poursuivent néanmoins, au titre du regroupement familial, ou bien clandestinement. Des politiques d'incitation au retour volontaire sont aussi mises en place pour limiter la présence des étrangers sur le territoire. Les immigrés d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou d'Asie sont plus nombreux tandis que la part des Européens recule. Mais le nombre global d'étrangers augmente peu à partir de 1974, d'autant que par le mariage ou la procédure de naturalisation, nombre d'entre eux deviennent français. La crise, puis la dépression économique, alimente une poussée de l'extrême droite xénophobe. Le Front National, parti politique d'extrême droite né en 1972, stigmatise les étrangers et les immigrés, accusés d'être responsables des difficultés de l'économie française.